Et maintenant, nous retrouvons Raphaël Antoven pour les nouveaux chemins de la connaissance.
Et merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Hey, you know what? Suite et troisième temps ce mercredi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au racisme. Après Dominique Sopo, lundi, et Michel Vieviorca, mardi, c'est aujourd'hui Jeannine Mossus-Laveau et Caroline Fourest qui viennent nous parler de misogynie. Caroline Fourest est notamment l'auteur de La Tentation obscurantiste, un livre sur les dérives communautaires de l'extrême gauche qui avait reçu à bon droit le prix du livre politique en 2006, et vous également, qui animez la revue Prochois. Bonjour.
Bonjour,
bienvenue sur France Culture. Et bonjour Jeannine Mossus-Laveau, vous êtes directrice de recherche au CNRS et au CVIPOF et maîtresse d'œuvre en particulier de Quand les femmes... J'ai dit maîtresse d'œuvre.
C'est bien, c'est bien.
Et maîtresse d'œuvre, donc en particulier de Quand les femmes s'en mêlent, genre et pouvoir aux éditions de La Martinière, un ouvrage collectif dont vous signez l'avant-propos. On va commencer cette émission avec une question traditionnelle cette semaine. Peut-on, à propos de la misogynie, parler de racisme ? Jeannine Mossus-Laveau.
Alors, je crois qu'on ne peut pas faire une équation simple, misogynie égale racisme. Je crois que tout dépend du contexte dans lequel s'exerce cette misogynie. C'est une façon d'être plus apparenté à ce que j'appellerais le sexisme, c'est-à-dire une attitude discriminatoire qui pose comme principe que les femmes ne sont pas tout à fait les égales des hommes et donc n'ont pas forcément droit au même traitement. En tout cas, si on arrive à une forme de discrimination, à ce moment-là, on peut considérer que c'est assez proche du racisme, en tout
cas. Vous voulez dire que la qualification de racisme dépend des effets induits.
Oui, et puis du contexte. Si je prends un exemple opposé, par exemple, chez les humoristes, bon, moi j'adore les humoristes, je les écoute tous, et de temps en temps, il y a des choses qui sont dites, qui effectivement peuvent relever de la misogynie, mais c'est un peu la règle du jeu. Je veux dire, chez les humoristes, tout le monde en prend plein la gueule. Donc c'est assez, je dirais, attendu que... les femmes aussi, mais comme d'autres catégories de personnes, soient mises en cause. Je prends juste un petit exemple. Tout récemment, quand il y a eu le duel Martine Aubry Ségolène Royal, je ne sais plus lequel des humoristes que j'écoutais, a ramené ça à... oui, c'est une bagarre entre la Barbie et la Barbante. Donc, si une femme politique est sexy, elle est Barbie. Si elle n'est pas très sexy, elle est Barbante. Donc là aussi, ça donne une image qui est négative, mais j'assimilerai pas ça, je dirais ça peut être de la misogynie d'humorisme, mais j'assimilerai pas ça à du racisme comme un comportement discriminatoire dans les salaires, dans l'emploi, dans toutes sortes de domaines.
Vous avez parlé des humoristes, hein, Jeannine Mossus-Laveau. On va entendre l'un d'entre eux, tiens. Wally, dans un sketch intitulé justement La misogynie, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus.
Il y a une réputation qui me précède dans ce formidable métier du show business, comme quoi je serais fortement misogyne, parce qu'un soir, dans une grande salle à Paris, j'avais dit comme ça... Ma femme est partie sur un coup de tête, celui que je lui ai mis. Moi, personnellement, ça me faisait marrer, vous voyez. Le problème, c'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y avait un journaliste de la presse nationale dans la salle qui l'a cru et qui l'a écrit. Alors depuis maintenant 3 ans, j'ai obligé de me justifier, de dire chaque soir que c'est faux, que je ne suis pas misogyne, c'est faux, je possède une femme et c'est très pratique. J'ai d'ailleurs consacré une chanson à ma femme, une chanson courte, faut pas non plus exagérer, hein, que j'ai intitulée Saint-Valentin Blues.
Saint-Valentin Blues. Caroline Fourest, ça vous fait rire, ça ?
La deuxième partie, oui. Oui, ça me fait rire. Enfin, je m'en fiche. Honnêtement, c'est pas aujourd'hui là-dessus que pour moi se gagne la question de la lutte contre le sexisme. Et pour répondre à votre question, pour moi, le racisme existe sans les races. Le racisme désigne un processus d'essentialisation qui vise à dépersonnaliser des individus en vue de les rendre plus inférieurs et de les dominer. Donc, à ce titre, j'aime bien qu'on insiste sur un dénominateur commun parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre les minorités en concurrence les unes avec les autres et que je pense qu'il faut retrouver le sens universel de cette quête des dominés face aux dominants. Donc ce qui m'intéresse dans le sexisme, comme dans le racisme, comme dans l'antisémitisme, et comme dans toute forme de processus de domination, c'est justement ce processus de domination. Et l'humour par-dessus le marché n'en est que soit un symptôme, soit un moyen d'attirer l'attention. Et généralement, c'est les lieux où on se focalise. Par exemple, je pense que moi, il y a 10 ans, j'étais évidemment beaucoup moins heureuse à Charlie Hebdo que je le suis aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans les codes de l'humour de Charlie, qui reste impertinent, mais qui fait de l'humour moins facile. Je crois qu'on est plus tenté par l'humour exigeant aujourd'hui. En tout cas, on arrive à faire de l'humour plus exigeant. Comme il y a quelques années, des humoristes comme Michel Leeb faisaient rire des salles entières juste en imitant des accents noirs ou asiatiques. Depuis, on a estimé qu'on pouvait évoluer vers quelque chose d'encore un peu plus pertinent, un peu plus fin. Sur les femmes, on y est en train d'y aller doucement aussi.
D'accord, mais alors deux questions, Caroline Forest. Qu'est-ce qui distingue un sketch comme celui de Wally, donc, sur sa femme, le coup de tête qu'il lui a mis ou pas, enfin bon, etc., qui fait rire ou pas d'ailleurs, mais enfin qui en tout cas ne scandalise personne. Par exemple, le sketch de Dieudonné déguisé en rabbin faisant le salut nazi. Et derrière cette question, une autre question, est-ce qu'il ne faut pas... Alors, quelles sont les différences, les nuances qui sont importantes à marquer entre, d'un côté, par exemple, le racisme anti-noir qui s'appuie sur l'objectivité d'une différence de peau, l'antisémitisme qui fabrique de toutes pièces une différence imaginaire en inventant un nez crochu ou des manies, des attitudes qu'il serait bon de fustiger, et le sexisme qui, lui, pour le coup, s'appuie sur une différence objective, la différence entre les sexes.
Oui, mais justement, la question n'est pas de savoir si c'est une différence objective ou pas. Moi, il y a quelque chose, il y a une nuance dans notre code de procédure pénale que je mets généralement un bon moment à réussir à expliquer à des étudiants américains qui ne comprennent pas, c'est qu'il y a écrit dans notre code de procédure pénale qu'on peut être condamné pour incitation à la haine envers quelqu'un en raison de sa race, vraie ou supposée. C'est une subjectivité dans l'intention de la personne qui discrimine qui, pour moi, est très importante. Ce qui compte, ce n'est pas l'objectivité de la différence, que mon féminisme, à moi, tend à relativiser le plus possible. Pour moi, l'émancipation intellectuelle, c'est d'arriver à relativiser le biologique pour n'en faire que ce qu'il est, c'est-à-dire une donnée assez peu importante au regard des données sociales, intellectuelles, philosophiques, enfin, de ce qui nous rassemble au niveau des idées. C'est là-dessus que je pense qu'aujourd'hui, des gens dans l'espace public, comme Éric Zemmour, qui font croire que c'est une évidence d'être au niveau des différences biologiques et d'y apporter de l'importance, nous tire vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut. Et c'est ça que je cherche à guetter dans le sexisme. Donc, si vous voulez, on est forcément très attentif à l'intention de l'auteur. L'intention de l'humoriste qu'on vient d'entendre est potache, un peu bête. Évidemment, ce ne serait pas la même chose, par exemple, s'il battait vraiment sa femme. Ce serait beaucoup moins drôle s'il battait vraiment sa femme. Par contre, si sa femme fait une tête de plus que lui et qu'en fait, il trempe devant elle dans la vraie vie, ça devient plus drôle. Ce sont des critères comme ça qui, dans chaque affaire de polémique, sont importants dans l'affaire du Dieudonné. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était moins son sketch assimilant le sionisme à du nazisme que l'attitude qu'il avait eue ensuite vis-à-vis de l'animateur qui l'interviewait, Marc-Olivier Fogel, et qui, simplement parce que Marc-Olivier Fogel est juif, envers qui il a eu une attitude de défiance, comme si il était l'objet, le poste avancé du grand lobby qui allait le censurer. Donc c'est la paranoïa du bonhomme qui est intéressant. Et donc c'est forcément, encore une fois, la psychologie de celui qui énonce un propos pouvant engendrer des conséquences sociales et publiques qu'il faut aussi analyser quand on s'élève contre un propos.
Janine Motus-Lavaux.
Oui, je crois que le statut de la personne qui énonce ce type de propos, et dans le cas de l'humoriste, c'est vrai que c'était quand même un peu lourdingue, mais bon, il n'y avait pas de quoi, je veux dire, devenir complètement fou. Mais le même argument employé par un homme politique, et ça, on l'a entendu au moment de la campagne pour les législatives de 2007.
Présidentielle aussi, d'ailleurs.
Oui, mais sur l'exemple précis que je donnais, c'était pour les législatives, où on reprochait à l'UMP de ne pas présenter suffisamment de femmes, donc de candidates, et où donc un représentant de ce parti a dit « mais moi, je préfère un homme élu plutôt qu'une femme battue ». Et je trouve que ça, c'était beaucoup plus répréhensible qu'un propos d'humoriste qui, effectivement, bon, je veux dire, s'inscrit dans une tradition où c'est un espèce de jeu d'utiliser ce type d'argument. C'est bat ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le saura. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça pour lesquelles il faut pas, par rapport auxquelles il ne faut pas être complètement parano. Mais si c'est un politique qui tient ce type de propos, je pense que là, c'est grave et que ça doit être souligné et réprimé.
Il y a deux façons peut-être de comprendre un tel propos. Je préfère un homme élu plutôt qu'une femme battue. On peut, sous-entendre celui qui a dit ce propos, je ne sais pas qui, mais on peut d'un côté entendre la parole de quelqu'un qui dit qu'une femme en politique est nulle et par conséquent, elle va perdre.
Elle va perdre
et
donc c'est un passeport pour la défaite. C'est ce qu'il
voulait
dire.
Alors, dans ces conditions, effectivement, c'est répréhensible. Mais on peut aussi considérer qu'avec l'introduction de la parité, il y avait des tas de candidats parfaitement compétents et qui avaient fait leur preuve au sein des partis, qui se sont retrouvés sur le banc de la désignation comme candidat dans telle ou telle circonscription parce qu'ils avaient le tort de n'être pas des femmes.
Pas trop à l'UMP, où finalement l'UMP a présenté
à peu près
25% de candidates.
Laissons de côté l'UMP, donc, en l'occurrence, mais de façon générale, M. Slavo, c'est un problème posé par la parité.
C'est un problème posé par la parité et qui vous attire tout de suite l'argument de la classe politique qui ne sait pas trop comment faire et qui dit on ne peut pas renvoyer chez eux ces hommes qui n'ont pas démérité. Bon. Effectivement, n'empêche que s'ils restent 4, 5, 6 mandats jusqu'à la fin de leur jour, occupant différents postes, etc., on peut considérer que quand même, les femmes ne leur volent pas leur place.
Mais est-ce que la loi sur la parité n'est pas d'une certaine façon une loi communautaire ? C'est-à-dire une loi qui ferait des femmes une communauté ou qui valoriserait comme telle l'appartenance à un sexe et qui, ce faisant, éventuellement parfois, au détriment... J'énonce cet argument parce que c'est un argument puissant qui a été énoncé à bon droit par des gens qui, par ailleurs, sont de parfaits féministes, de parfaites féministes. On peut tout à fait considérer que la valorisation comme telle de l'appartenance à un sexe se fait parfois au détriment des compétences de celui qui, pour son malheur, en l'occurrence, était du sexe d'en face.
Sur cette loi, je crois qu'il ne faut pas non plus en faire ce qu'elle n'était pas. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu, depuis le vote et l'application de cette loi, les femmes décider de se réunir en chouette communauté et d'aller vivre entre copines, toutes ensemble, sur le plateau du Larzac, en disant, voilà, on va former une communauté, ça va être le pied. Non.
Non, malheureusement, ça n'est pas arrivé.
Alors, Caroline le regrette. N'empêche que la grosse majorité des femmes vivent avec des hommes, il se trouve que c'est encore comme ça, qu'elles n'étaient pas en passe de faire sécession parce qu'il y a eu cette loi sur la parité. Donc je crois que de ce point de vue-là, cet argument, il ne tenait vraiment pas la route.
Il faut se situer au niveau des principes, en l'occurrence.
Au niveau philosophique auquel se situait tout à l'heure Caroline, c'est-à-dire... aller vers le gommage de plus en plus rapide et de plus en plus des différences qu'on veut encore aujourd'hui reconnaître comme évidentes alors qu'elles ne le sont pas du tout. Je veux dire, moi, ça va tout à fait dans le sens de ce que je défends. Je pense qu'on va à une vitesse que je ne saurais pas évaluer ni avec un calendrier que je ne pourrais pas vous préciser, on va vers l'indifférenciation. Il y a un moment où les hommes, les femmes auront les mêmes rôles, les mêmes fonctions, feront les mêmes choses, les mêmes études, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais ça viendra, etc., etc., où les hommes reprendront en charge des tâches du privé et ne les laisseront pas seulement à leurs femmes comme c'est le cas encore aujourd'hui, et où ça n'aura pas les conséquences catastrophiques qu'un certain nombre, y compris de féministes, prédisent.
Bon, donc, mais alors, mais est-ce que, Caroline Fourest, est-ce qu'on ne va pas, avec cette loi sur la parité, restons un instant sur la parité, puisque le hasard de la conversation nous porte à en parler, c'est important. Restons sur les problèmes qu'elle pose et les solutions qu'elle apporte. Est-ce qu'avec la loi sur la parité, on ne va pas justement, on n'est pas dans une démarche qui consiste justement à rétablir des différences alors qu'on pourrait légitimement appeler à leur gommage précisément ?
C'est complètement une loi ambivalente et il y a deux façons de lire la parité. Moi, je soutenais la façon stratégique de la soutenir. C'est-à-dire que si on assume et on nous le dit clairement, il n'y a pas de différence homme-femme. Il y a simplement un énorme retard dans la représentation nationale qui fait qu'on était à autour de 10% de femmes à l'Assemblée et que donc, de façon totalement stratégique, on va décider sur une période de 5 à 10 ans de faire un encouragement pour que les partis politiques présentent plus de femmes.
Ça, une forme de béquille républicaine.
Voilà, c'est une forme d'affirmative action que, pour le coup, je peux soutenir. Là où je
de discrimination positive.
Oui, mais enfin, de politique volontariste de lutte contre les discriminations. Et je travaille suffisamment sur ces sujets à Sciences Po avec des élèves pour savoir que sur chaque sujet, selon justement la discrimination que l'on combat et le contexte dans lequel on le combat, il n'y a pas de solution universelle. Pour le coup, il n'y a que des solutions de contexte. Par contre, je partage toujours l'inquiétude de féministes universalistes qui effectivement se sont élevées contre une vision essentialiste de la parité, qui a très vite débordé celle qu'il a portée par stratégie.
C'était le sens de la question que je vous posais tout à l'heure.
C'était totalement inévitable, et vous avez raison, Raphaël. C'est-à-dire qu'il y a dans une partie du personnel politique, d'abord il faut être très clair, entre un principe philosophique et son application politique, il y a toujours de la déperdition. C'est tout à fait logique et courant. Donc quand le personnel politique s'empare d'une idée, elle ne le fait pas toujours de façon très fine. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de femmes proches du monde politique qui ont écrit à cette occasion des imbécilités pas possibles.
Je suis d'accord.
Voilà, pour nous expliquer la complémentarité du masculin, du féminin, que si on allait introduire les femmes en politique, il y aurait moins de corruption, il y aurait plus de tendresse, il y aurait plus de proximité. Encore récemment, à l'UMP, il y a une conférence de presse qui a fait tiquer même Patrick de Védjean, je l'ai vu. Je ne sais pas quel est le nom de la responsable politique qui était à ses côtés, mais qui a dit, écoutez, regardez, le spectacle donné par Martine Aubry et Ségolène Royal est scandaleux. Nous avons gagné le droit d'être en politique parce que nous avions dit que nous ferions de la politique différemment et nous n'avons pas le droit de donner ce genre de spectacle parce que nous sommes censés apporter quelque chose d'autre. Ce sont des propos différentialistes, je veux dire, c'est inacceptable. Et là, c'est la conséquence de l'appauvrissement intellectuel d'une vision essentialiste de la parité, qui, à mon avis, aurait été d'ailleurs plus efficace si on l'avait inscrite à la question des partis politiques dans la Constitution et non pas dans le corps de la représentation nationale, parce que ça conforte ce mythe qu'une société marche sur sa jambe masculine et féminine et on retourne à Adam et Ève et on retourne à...
En somme, les hommes sont belliqueux, les femmes sont pacifiques, que si tout le monde était une femme, il n'y aurait pas de guerre, des choses comme ça.
Ce qui est évidemment une absurdité démentie, mais alors, ne serait-ce que par l'histoire, encore récemment, par Sarah Palin, je veux dire, qui chasse le caribou et qui est autant l'allié des femmes que l'était George Bush. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Cette sacralisation ne résiste pas à l'épreuve des faits, et elle est surtout au cœur, l'essentialisation féminine est au cœur de ce que toute féministe souhaite en réalité combattre. C'est ça le cœur de la lutte contre le sexisme. C'est la lutte contre la différenciation des sexes et cette mythologie évaporée qui nous raconte un conte de fées depuis des siècles pour justifier que sous prétexte de flatter la douceur, la beauté, la tendresse des femmes, on explique qu'elles ont une place différente, complémentaire, donc inférieure en réalité de celle des hommes. C'est la parole du Vatican aujourd'hui et c'est malheureusement encore la parole de gens très, très bien intentionnés qui n'ont pas déconstruit ces mécanismes.
On va revenir ces mécanismes. Janine Monsieur
Lavrouille. Oui, je voudrais ajouter, parce que sur cette histoire de la parité, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement des différentialistes qui ont soutenu cette loi au nom justement de la différence homme-femme.
Dont vous n'êtes pas.
Et moi, je ne suis pas.
Ça n'est
moi,
pas en tant partie, que différentialiste que vous
moi,
le souteniez. Voilà.
Je voulais intervenir en tant qu'ayant soutenu la parité, mais étant égalitariste, et l'ayant soutenu,
c'est
justement...
Pas, est-ce que c'est pas contradictoire, ça?
Ah non, pas du tout.
Non, il y
avait
deux façons.
Et l'ayant vraiment soutenu, parce que il y avait une injustice totale à ce que la moitié de la population ne soit absolument pas représentée. Il n'y a aucune raison pour qu'une assemblée soit composée à 95% ou 90% d'hommes, que ce soit toujours les hommes qui soient les représentants et les femmes les représentées. Je veux dire que c'est un problème de simple justice. Et moi, je l'ai soutenu justement en étant sur des positions anti-différentialistes et en disant ce qu'on veut, c'est pas que y ait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec les femmes dans leur rôle toujours en charge du privé et puis plus ceci, plus cela, etc. Mais que les femmes justement sortent de chez elles pour aller faire de la politique, prendre en charge le public, et donc soit exactement dans les mêmes rôles, dans les mêmes fonctions de pouvoir, parce que c'est des fonctions de pouvoir, et le discours stupide sur le thème « les femmes n'aiment pas le pouvoir », etc., je veux dire, c'est aussi arrangé au magasin des accessoires à oublier le plus vite possible. Donc c'était vraiment, elles sortent de chez elles, on les fait sortir de chez elles, elles vont faire de la politique aussi bien que les hommes en font. Et c'était sur une position totalement égalitaire. Alors, effectivement, ça a été, je dirais, pollué, par un discours différentialiste de certaines, pour qui c'était « Ah, il y a les femmes, il y a les hommes, et c'est bien que les femmes, parce qu'elles portent les enfants, puissent exprimer ces valeurs si extraordinaires que quoi. » Bon, bon, je ne vais pas développer ça, mais ça nous a plutôt compliqué la vie, et en tout cas, moi, j'étais en désaccord total avec ça.
Alors, c'est très intéressant d'observer que tout au long de cette semaine, on est à mi-chemin, hein, de cette semaine que les nouveaux chemins consacrent au racisme, de voir à quel point le terrain de la différence est un terrain, la porosité de la différence et de l'inégalité. Lundi dernier, en recevant Dominique Sopo, on a diffusé un extrait de Lévi-Strauss, grand différentialiste en un sens, vraiment le penseur de la différence par excellence, qui faisait comme par hasard l'éloge de Gobineau, expliquant que Gobineau était lui-même un penseur de la différence, de la bigarrure du monde. Et je voudrais qu'on entende quelqu'un qui... justement, a lutté contre cela, qui est bien connu pour l'avoir fait. D'ailleurs, c'est impossible dans une émission sur la misogynie de ne pas faire entendre cette voix, une voix que vous allez reconnaître et des propos sur lesquels j'aimerais avoir votre sentiment. Écoutez.
Eh bien, ça n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Par ailleurs, il est bien évident qu'on ne peut parler d'aucune catégorie humaine sans examiner les problèmes sexuels, mais je ferai remarquer aussi que si on regarde ces 1000 pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrés précisément aux questions de la sexualité. Ce sont naturellement ces pages-là dont on s'est le plus occupé et qu'on a le plus lu et peut-être qui amuse le plus les gens, mais il y en a une très grande quantité d'autres qui sont consacrés à tous les problèmes du travail, du ménage, du cœur, des sentiments,
même de la maternité,
de l'intellectualité également de la femme, oui. Etc., etc. Enfin, et vraiment, oui. Ça n'est pas du tout une spécialisation.
C'est pas que la question sexuelle, c'est certain. Bien, enfin, puisque j'ai l'air de vous mettre en accusation au nom du public, je voudrais que vous répondiez aussi à cette attaque qu'on a portée contre vous. C'est qu'en somme, on a affecté de vous confondre avec les féministes et les suffragettes à la manière 1900, n'est-ce pas, et de penser que vous aviez manifesté une rancune et un sentiment de vengeance extraordinaire et une espèce d'incompréhension de la qualité de la femme, de la condition de la femme. Voudriez-vous répondre à cette accusation ?
D'abord, je trouve que utiliser le mot suffragette et féministe comme insulte, ça prouve qu'on est soi-même profondément antiféministe, parce qu'enfin, avec tout le ridicule et toutes les difficultés qu'elles avaient à traverser, ces femmes combattaient pour un combat qui était valable. Quoique, bien entendu, je n'approuve pas ni leur méthode, ni beaucoup de leur manière de penser, mais enfin, elles étaient féministes et elles avaient raison de l'être, et certainement je le suis aussi, si on entend par là que je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes. Par ailleurs, je ne crois pas du tout avoir négligé la description de ce qu'est vraiment la condition féminine. Je ne crois pas du tout avoir négligé le fait qu'il y a un donné, au contraire, j'ai consacré à cela tout mon premier volume, un donné physiologique, historique, social, qui définit la femme comme étant autre que l'homme, profondément différente. La question, c'est de savoir, à partir de là, quelles sont ses chances, quels chemins peuvent être ouverts à sa liberté, et c'est de l'aider à se sauver comme être humain dans le monde où elle a naturellement, comme tout individu d'ailleurs, une situation très singulière. On s'est mépris d'ailleurs si on a cru que j'étais, mettons par exemple, contre la maternité. Je suis simplement contre un certain asservissement de la femme à la maternité. On s'est mépris si on a cru que j'étais par exemple contre l'amour, alors que j'ai simplement réclamé que l'amour soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et non pas une espèce d'esclavage et de mysticisme qui fait que alors la femme se mettra aux genoux de l'homme comme un dieu, et du même coup d'ailleurs lui donnera toutes les charges qu'on donne ordinairement à un dieu.
Misogynie à part, le sage avait raison. Il y a les emmerdantes, on en trouve à foison. En foule, elles se pressent. Il y a les emmerdeuses, un peu plus raffinées. Et puis très nettement, au-dessus du panier, il y a les emmerderesses. La mienne à elle seule, surtout surenchérie, elle relève à la fois des trois catégories, véritable prodige. Emmerdante, emmerdeuse, emmerderait si tout. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde, vous dis-je.
Simone de Beauvoir et Georges Brassens, donc, dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, dans cette émission sur la misogynie. Caroline Forest, que vous inspire là, d'abord d'entendre la voix de Simone de Beauvoir et puis ce qu'elle dit surtout.
Mais surtout en l'entendant les premières phrases sur le fait qu'on réduit systématiquement les femmes à leur statut d'objet sexuel, je repensais, alors là pour le coup s'il y a quelque chose qui m'a choqué, ça m'arrive pas souvent, mais la façon dont le Nouvel Observateur a voulu rendre hommage à Simone de Beauvoir en mettant une photo prise volée, prise de dos où elle est nue, donc la réduisant à son corps, quand on sait ce qu'était la pensée de Simone de Beauvoir, c'était tellement un contresens intellectuel.
Il faut poser les choses. D'abord, c'est idiot, puisque c'est une façon de présenter comme audacieux le fait de dire que les philosophes ont un corps. Donc déjà, c'est en
oui,
soi...
Enfin, c'est pas une découverte, mais sur cette philosophe-là, c'est en plus un manque réellement de respect pour sa pensée, pour ce qu'elle a développé. Donc,
Me semble de mémoire que les chefs de garde avaient réclamé qu'on montre les fesses de Jean Daniel à ce moment-là.
Oui, elles sont allées d'ailleurs manifester devant le Nouvel Observatoire.
D'habitude, les chefs de garde ne me font pas tellement rire, mais là, pour le coup, je trouve ça assez drôle. Bon, ceci est mis à part. Évidemment que ce qu'a posé Simone de Beauvoir, c'est justement le début du processus visant à sortir de cet essentialisme féminin. On n'en est pas femme, on le devient. On entend dans ses propos quelque chose qu'on entend à chaque génération et à chaque passage de témoin entre féministes, c'est qu'il y a toujours cette mise en accusation qui est systématique, qui commence à peine à diminuer. Comment vous êtes féministe, vous soutenez ces extrémistes qui sont alors des hystériques, des mal baisés, qui montent les femmes contre les hommes. On l'a entendu de toute génération et le premier passage obligé d'une féministe, c'est de se justifier là-dessus, c'est de devoir dire mais ben non, réclamer l'égalité, réclamer des rapports amoureux égalitaires par exemple, ça n'est pas lutter contre l'amour. Et pour faire la liaison avec le morceau de Georges Brassens, moi c'est un morceau que j'adore, même dans lequel je peux me retrouver puisque j'aime les femmes. Donc il y a des moments où les femmes sont emmerdantes, il a raison Brassens. C'est très différent de faire un morceau amoureux sur ses amours et ses relations avec les femmes qui sont, comme dans toute relation amoureuse, parfois tendues, parfois emmerdantes, parfois évidemment très satisfaisantes et même très souvent, que de tenir un propos généralisateur. C'est la différence encore une fois entre l'humour et le propos politique visant à considérer que par essence toute femme est hystérique, idiote, imbécile ou à l'inverse formidablement douce, gentille et incorruptible.
En somme, c'est la même affaire que de dire des femmes qu'elles apporteraient à la politique des vertus dont la politique serait dépourvue parce que ce serait uniquement une affaire d'hommes et de dire que les femmes sont médiocres et inaptes à la chose publique. C'est en somme le même discours, Janine Bossuet-Lavaux.
C'est une façon toujours d'essentialiser les êtres humains en les distinguant et en faisant deux catégories à part, alors qu'on est tous de la même humanité et que quelques-uns, on a des différences anatomiques, ce n'est pas une raison pour considérer que la façon d'être au monde serait radicalement opposée et qu'il faudrait que chacun soit dans son coin. Donc, ça, je crois que c'est... Bon, heureusement, je crois qu'on commence quand même à se détacher de ce schéma, même s'il y a encore quelques archaïques comme celle que vous citiez tout à l'heure, ne s'en détache pas. Mais je crois qu'on progresse par rapport à ça. Et je voudrais dire deux choses parce que sur Simone de Beauvoir et sur Brassens. Parce que Simone de Beauvoir, bon, on a beaucoup parlé, évidemment, cette année. Il y a eu énormément d'éloges, de florilèges, etc., etc. Mais moi, il se trouve que puisque je suis en train de faire un livre sur le genre, j'ai relu... Simone de Beauvoir.
Il faut préciser ce que vous entendez par genre. Genre ici, vous ne désignez pas Simone de Beauvoir.
Non, genre.
Mais dites un peu aux auditeurs à quoi correspond la notion de genre.
On distingue. Bon, alors ça, c'est dans notre langage de science. Pas de féminisme, mais de sciences humaines, parce que c'est un terme qui est passé dans les sciences humaines.
C'est une des avancées au niveau des idées les plus.
On distingue entre le sexe qui est le sexe biologique homme ou garçon. Et le sexe social, c'est-à-dire la façon dont on est placé à un moment donné dans l'histoire et dans la sociologie qui fait qu'on a tel rôle, tel mode de vie, telle façon d'être, etc. Donc, le genre, ce qu'on appelle le genre, c'est le sexe social, si vous voulez, dit en termes plus compréhensibles. Mais moi, j'ai relu donc pour ça vraiment tout le deuxième sexe. Et ce qu'on a fait dans la période récente, on a vraiment... appuyé et mis en valeur, et on a eu raison, toute la deuxième partie du deuxième sexe où Simone de Beauvoir montre effectivement que la situation de la femme, tout ça, c'est des constructions sociales et qu'il faut qu'elle fasse des études, qu'elle travaille. Et à ce moment-là, bon, elles deviendront, il n'y aura plus de différence un jour ou l'autre avec les hommes. Mais ce qu'on oublie, c'est toute la première partie qui est d'un essentialisme, moi, qui me gêne beaucoup, où elle parle de la jeune fille, la jeune femme, la lesbienne. il n'y en a qu'une, et c'est tellement stéréotypé.
C'est exactement ce que j'allais vous dire, voilà. Janine Mossus-Labo. Est-ce que précisément, ouais. et d'ailleurs on peut revenir sur cette phrase, on ne naît pas femme, on le devient. C'est une phrase étonnante. On pourrait rétorquer qu'on est femme, sauf que dans la mesure, dire on ne naît pas femme, on le devient, c'est refuser en somme que la nature soit normative, tout simplement.
Ouais. Mais surtout, je pense que, et puis en plus les exemples qu'elle prend, ce sur quoi elle s'appuie, c'est la littérature du 19e siècle, c'est des choses qui sont quand même, au moment où elle publie, largement dépassées par l'état sociologique de la population féminine à ce moment-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus encenser Simone de Beauvoir plus que pour ce qu'elle a fait. Et j'aurais ajouté un mot sur Brassens, parce que bon, la chanson « Emmerdeuse, emmerderesse », pour moi, elle m'amuse. Je veux dire que moi, j'adore Brassens. Mais je pense qu'il y a d'autres chansons qui sont aussi des chansons que j'aime bien, dans lesquelles il a dit pire, et peut-être sans tellement s'en rendre compte, et qui, chaque fois que je les entends, même si c'est des chansons que j'adore...
Pensez à 95 fois sur 100.
Non, je pense...
pour mémoire, hein, 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride
ça,
les fesses.
À qui la faute, hein.
Mais c'est ça.
À qui la faute si elle s'emmerde en baisant.
Mais là aussi,
hein,
il y a des progrès,
c'est ça. Il faut chercher d'autres responsabilités. Voilà. Mais non, c'est la chanson « Une jolie fleur dans une peau de vache » où, à un moment, qui est une magnifique chanson, mais à un moment, il dit « Et pour l'amour, je ne vous la chante pas, hein, il a assez plu aujourd'hui, et pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. » Ce qui veut dire, vraiment, les filles, bon, si elles sont un trou, ça suffit. Quoi. On ne leur demande pas d'avoir des idées, d'être intelligentes, d'être quoi que ce soit.
En l'occurrence, c'est de Nadine de Rothschild qu'il parlait.
Oui.
Oui, mais ce n'est pas une circonstance quand même totalement atténuante.
Effectivement. Cette phrase, c'est vrai, je regrette que Brassens l'ait chantée, mais, ne change rien au fait que c'est un immense poète et que c'est un des ceux que j'adore le plus.
Bien sûr, mais surtout, ce qui est Caroline étonnant Forest. Dans cette littérature-là, qui envisage la sexualité du point de vue des hommes et qui fait croire que le féminisme est une atteinte à l'amour, c'est réellement comment on a pu pendant des siècles être à ce point dans la glorification de l'amour à sens unique, qui, et la chanson de Brassens en témoigne, n'apporte du plaisir qu'à sens unique. Et donc, au contraire, le féminisme est évidemment une quête du raffinement amoureux. C'est une quête qui permet... Je ne sais pas comment ça... Enfin, je m'imagine à quel point ça devait être quand même douloureux pour un séducteur d'avoir des femmes qui ne sont pas capables de désirer, qui sont entièrement dans la passivité, qui doivent toujours s'excuser si elles ont un début de désir, parce que sinon elles passent pour des femmes libres, débauchées, des prostituées. Ça crée quand même des codes amoureux qui sont insupportables. On a toujours l'impression que l'homme est obligé de forcer une femme à avoir un désir sexuel. Le féminisme a changé ça. Le féminisme a apporté ça aux hommes et aux femmes. Le fait qu'un rapport, une femme puisse avoir envie, puisse désirer. Ça, pour moi, ça reste l'un des plus beaux apports à la civilisation du féminisme. Et le deuxième, c'est ce que disait Janine sur la question du genre. Là, on est vraiment au cœur du sujet. Et oui, la première partie de Simone de Beauvoir, c'est une typologie très archaïque qu'on a effectivement plutôt tendance à mettre sous le tapis pour pouvoir saisir la perche qu'elle nous tend dans un second temps du livre et évoluer vers cette question du genre qui est fondamentale, qui d'ailleurs est un peu mis à toutes les sauces aussi. Mais disons que si on s'en tient à cette réflexion qui est en train de révolutionner les sciences humaines et qui poursuit, là on est en plein dans l'antiracisme, c'est-à-dire qu'à partir de la question des femmes, le fait de dissocier encore une fois le sexe biologique du comportement social plus ou moins masculin, plus ou moins féminin, est une révolution identitaire qui nourrit l'antiracisme et qui l'irradie dans son ensemble. Mais on va même plus loin que ça. Il y a des anthropologues féministes, par exemple, qui ont même déconstruit le biologique en disant « mais on vit sur une représentation comme quoi il y a un sexe masculin, un sexe féminin de façon totalement figée ». Or, il y a des études de squelette et de composition hormonale qui, d'après ces anthropologues et d'après ces travaux, montrent qu'en fait, il y a toute une nuance, toute une palette, y compris biologique, du plus masculin au plus féminin. Alors,
mais
ne parlons pas des nuances
Caroline
sociales.
Forest, dans l'hypothèse, ou cette hypothèse que vous soumettez, donc, qui est effectivement aujourd'hui... qui se
destinée à nous ouvrir de nouvelles perspectives.
Tout à fait, de nouvelles perspectives. Mais même si cette hypothèse était fausse, est-ce que ça changerait quoi que ce soit au débat?
Non, mais c'est une façon de déconstruire. C'est-à-dire que l'opposé est juste une façon de déconstruire et d'ouvrir de nouveaux horizons. Parce que cette façon qu'on a de considérer que on est blanc ou noir, avec des codes de représentation qui n'envisagent même plus la nuance. C'est toute la question de la goutte de sang. À partir de quel nombre de litres de goutte de sang vous êtes plus noir que blanc? C'est la même chose pour le féminin et le masculin. À partir, évidemment, qu'il y a un sexe masculin et qu'il y a un sexe féminin. D'abord, il y a des gens qui naissent aussi avec les deux sexes. Oui, il y a des dosages hormonaux différents. Et de toute façon, mais vous avez complètement raison, une fois qu'on a posé ça comme ça et qu'on a essayé d'un peu troubler les gens...
À partir du moment où la nature n'est pas normative, à partir du moment où on ne naît pas femme et où on le devient, voilà, le problème ne se pose plus, le problème disparaît. Les découvertes, exactement, éventuelles sur la composition des sexes est nulle et non avenue.
Complètement. C'est intéressant de le poser pour juste arrêter de le poser, pour dire voilà, tout est troublant. Et le plus important, c'est de ne pas considérer que... D'ailleurs, pourquoi n'a-t-on pas considéré que le fait d'être grand ou petit était quelque chose qui nous déterminait dans l'espace philosophique et intellectuel ? Il faut revenir à l'histoire, à la genèse de ces récits collectifs qui nous ont emprisonnés. Dans le cadre du sexisme, le fait que la femme porte un enfant l'a clairement désavantagé vis-à-vis de l'homme qui allait cueillir et chasser. Ça a créé un début de différence physique qui s'est retourné contre elle pendant des siècles. La religion est arrivée par-dessus et a figé des coutumes patriarcales qui correspondaient à cette différence biologique du fait de la cueillette et de la chasse. Et on était parti pour des siècles et des siècles de travaux, de récits qui sont d'un archaïsme et d'une simplification biologisante dont nous mettrons longtemps, effectivement, à sortir.
Alors justement, ce qui est intéressant avec cet archaïsme, c'est qu'il est tout à fait présent. Il est presque contemporain. Il est parfois même actuel. On va remonter un peu. On va passer du néolithique à ce qu'il reste de l'homme des cavernes à l'Assemblée nationale. Je parle au moment du débat sur la contraception à l'Assemblée nationale, où on avait des phrases tout à fait édifiantes. Jean Foyer, notamment, a dit ceci au moment donc de ce débat à l'Assemblée, qui est un débat évidemment houleux, qui précède le débat sur l'interruption volontaire de grossesse. Jean Foyer disait « La fornication sera rationalisée par la contraception. C'est l'abominable exploitation de tout ce qu'il y a d'animal et de porcin dans l'âme humaine. » Pierre Volumard, obscur député de l'Isère, disait « L'anarchie des mœurs et la facilité décupleront des appétits sans frein. C'est une ouverture aux jeunes des portes de la licence. » Je continue. « Un tel texte ne peut que favoriser la dissolution des mœurs, voire chez les esprits faibles, la prostitution. Et enfin, c'est un encouragement à ce qu'on pourrait appeler une civilisation aphrodisiaque. » Ce qui est intéressant, c'est que, en l'occurrence, la libération de la femme est perçue, en tout cas, les lois sur la contraception, qui sont deux choses concomitantes peut-être, est perçu comme un retour à l'âge de pierre, par une civilisation, alors là pour le coup masculine. Janine Mossu de Lavaux.
Oui, parce que on se dit, moi j'ai beaucoup étudié tous ces débats, les débats parlementaires au moment aussi bien de la loi, faut rappeler, sur la contraception de 1967 que de la loi Veil qui a été promulguée en 1975 sur l'avortement. Et c'est vrai qu'il y a une crainte, notamment de toute la majorité, d'une bonne partie de la majorité de droite, que la peur du gendarme ne jouant plus, c'est-à-dire la peur de la grossesse ne jouant plus, la femme allait avoir des aventures, des amants, et puis, chose épouvantable, ça a été dit à la tribune, elle va pouvoir prendre la pilule à l'insu de son mari. Vous vous rendez compte? Donc,
À l'insu du plein gré de son mari,
comme Richard Virenc. Et donc, elle va être libre, et c'est la fin de la famille, parce que la femme ne va plus rester, prisonnière dans son milieu et sous la coupe de son mari, qui décidait jusque-là s'il se retirait, il ne se retirait pas, s'il faisait un enfant, s'il n'en faisait pas, etc. Donc, ça a été pris, mais il y a des citations aussi. Un député dit « Une flambée inouïe d'érotisme va s'abattre sur le pays. » Et une des plus jolies, quand même, c'est, parce qu'il a été dit des choses absolument inouïes lors de ces débats. Lors du débat de 67, il y a un sénateur, le sénateur Henriet, qui était un sénateur de droite, qui a expliqué que si la pilule allait détraquer tout le système hormonal et donc déféminiser la femme. Et alors, il a dit, c'est à la tribune, c'est au journal officiel, et il a dit, et alors, fini ces gâteries, fini ces chatteries qui font le charme féminin, il n'y aura plus que des seins douloureux qu'on n'a pas le droit de toucher, et aussi des problèmes psychiques. Et il terminait en disant... la nature se vengera. La règle, c'est que le partenaire s'éloigne. Et il dit, pour moi, sans l'approuver, parce que c'est un catholique bon teint, je le comprends. Donc, il y a eu vraiment, par rapport à cette idée de liberté des femmes qui allaient pouvoir disposer de leur corps, disposer de leur calendrier de procréation si elles avaient envie de procréer, il y a eu vraiment une résistance à droite extrêmement forte. Alors, bon, on est passé outre et heureusement, aujourd'hui, il y a quand même, disons, la liberté de la procréation qui enlève beaucoup, je dirais, à ce côté essentialisation des femmes parce qu'elles ne sont plus tributaires, justement, de cet état naturel.
Restons dans le registre politique. Jeannine Mossus de Lavaux, Caroline Fourest, avec vous et cette émission sur la misogynie. Je voudrais qu'on aille en amont de ces débats au Parlement, enfin, ces débats, entre guillemets, ces combats. Au Parlement et qu'on aille le 29 juin 1936 et qu'on entende Louise Weiss, en pleine guerre, en plein combat justement pour obtenir le droit de vote, c'est celle qu'on a appelée les suffragettes. Écoutez.
Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes avec à leur tête Madame Louise Weiss envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation.
Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend. Afin d'obtenir ce statut, nos associés et nos sympathisants, 100 000 adhésions, ont été jusqu'à l'extrême limite des moyens légaux. Elles ont jusqu'à présent mené leur propagande avec un courage et une bonne humeur dont le pays a été le témoin. Toutes les promesses leur ont été faites. Quelles sont celles qui ont été tenues? On en est encore à parler de conseillères municipales adjointes facultatives, désignées, sinon élues. C'est insuffisant. Nous avons remis, à la suite de notre manifestation, une lettre au président.
Jeannine Mossus de Lavaux et Caroline Fourest sont avec nous ce mercredi pour évoquer la question de la misogynie dans une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au racisme. Je voudrais à vous deux vous soumettre un adage du grand absent d'aujourd'hui, je le regrette d'ailleurs, qui est Sacha Guitry, dont les sorties sur la misogynie sont si fines que parfois on en vient, comme pour Brassens d'ailleurs, à ne pas lui en vouloir. Il a dit notamment ceci, il a dit « Je consentirais volontiers à trouver, à considérer que les femmes nous sont, je le cite de mémoire, je consentirais volontiers à considérer que les femmes nous sont supérieures si elles ne voulaient tellement être nos égales. » Caroline Fourest.
Oui, mais là, on est exactement dans la poursuite du faux compliment, c'est-à-dire le compliment de accepter de rester à votre place. Et finalement, c'est sa place que l'on mettra, nous, sur un piédestal. C'est une forme de sacralisation qui est en réalité tout sauf, effectivement, une recherche d'égalité. Mais Sacha Guitry était un inégalitaire sur tout, était un sarcastique sur tout. Et quelque part, sa façon de ne pas épargner les femmes au milieu de son regard ironique sur le monde est peut-être une façon de ne pas être discriminatoire.
Est-ce que cet argument-là n'est pas, d'une certaine façon, ça n'a rien à voir avec Sacha Guitry d'ailleurs, mais est-ce que cet argument-là, l'idée qu'en somme c'est une façon de protéger, d'aimer, de magnifier les femmes que d'affirmer leurs différences et de les remettre à leur place, est-ce que cet argument-là n'est pas par exemple au principe de ceux qui aujourd'hui défendent, justifient et légitiment le port du voile? Jeannine Mossus de Lavaux, Caroline Fourest, qui
en tout cas, c'est, alors pour le coup, c'est une forme de paternalisme qui a beaucoup de points communs avec le paternalisme néocolonial. C'est vraiment le même type de discours, cette façon de...
C'est intéressant d'ailleurs parce que bien des féministes aujourd'hui prétendent que le port du voile, ou que la loi sur les signes religieux est au contraire, elle, une loi d'obédience coloniale.
Oui, mais on a un vrai débat là-dessus, on n'est pas d'accord. Il y a effectivement eu une partie, alors très minime, enfin il y a eu des figures importantes, des gens comme Christine Delphi ne sont pas des gens à minimiser, c'est quelqu'un qui a fait des travaux très importants et auxquels beaucoup se réfèrent, dont moi d'ailleurs, pour certaines choses. Elle, c'est quelqu'un qui vient aussi d'un féminisme tiers-mondiste. Et donc elle a vécu le débat sur le voile, effectivement, comme une façon de vouloir imposer une norme à des filles qu'elle considère comme musulmanes et comme donc culturellement... à défendre en tant que musulmane. Moi, je défends les femmes en tant que femmes face à la discrimination, au sexisme et à tous les intégrismes. Et ayant travaillé, par exemple, sur des groupes se revendiquant du féminisme pro-vie, c'est-à-dire des intégristes chrétiens ou protestants qui nous expliquent que la vraie libération de la femme, c'est libérer la femme de l'avortement et lui permettre de retrouver le chemin de sa dignité et de la maternité. Quand des groupes intégristes catholiques tiennent ce genre de discours, ça fait absolument rire tout le monde. Et on a bien compris que c'est un féminisme qui est en fait antiféministe. Même Sarah Palin se dit féministe, mais on sait bien ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est que quand des jeunes filles ou des femmes de culture musulmane tiennent les mêmes propos et se disent féministes islamiques pour revendiquer le fait d'avoir le droit de se voiler ou de ne pas forcément, selon leur mentor, qui est en l'occurrence Tariq Ramadan, occuper les mêmes fonctions que les hommes parce qu'il y a des travaux pour les hommes, il y a des travaux pour les hommes et des travaux pour les femmes et qu'il ne faut pas confondre les différentes natures, ce sont des propos qu'encore une fois, moi j'ai lu dans des brochures du Front National à propos des femmes. Mais parce qu'elles sont portées, parce que ces discours sont portés par des personnes de culture musulmane, il y a, je crois, une forme de paternalisme exotique qui vise à oublier la solidarité logique de toutes les femmes face à l'intégrisme, à les diviser et à faire croire que vouloir la laïcité pour tout le monde, vouloir l'émancipation pour tout le monde, ou plus exactement, pas l'émancipation de force, mais vouloir que le lieu de l'émancipation, qu'est l'école publique, uniquement ce lieu-là, pas la rue, pas les hôtels, pas les restaurants, mais l'école publique, soit un lieu qui éduque à l'émancipation individuelle, initie à l'égalité homme-femme, nous faire croire que c'est du néocolonialisme, c'est une propagande.
Alors, vous parlez d'exotisme, ça me rappelle un texte d'Elsa Dorlin, intitulé « Pas en notre nom », qui s'oppose à la récupération raciste, dit-elle, du féminisme par la droite française, dans lequel Elsa Dorlin écrit notamment ceci, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, on va terminer l'émission, on arrive malheureusement au terme de cette émission trop courte, mais enfin, elle dit ceci, la focalisation quasi exclusive des politiques sur des violences exotiques, elle met le mot entre guillemets, telles que la lapidation, l'immolation, l'excision, a pour effet de nous faire croire que la violence sexiste notamment est l'apanage du garçon arabe. Janine Mossus-Lavaux, que répondez-vous à un tel argument?
Moi, je suis assez gênée, je pense, devant ce type de raisonnement, parce que je pense que tout ce qui est violence faite aux femmes, je veux dire que bon, l'excision, c'est pas spécialement exotique, hein. Ça se pratique en France, on le déplore suffisamment, et je crois que bon, l'appeler comme ça, c'est pas vraiment de, enfin bon, ça, moi ça me convient pas vraiment, mais je pense que tout ce qu'on peut rassembler sous le terme de violence faite aux femmes, je crois que c'est le combat actuel, un de ceux qu'il faut mener en priorité.
Disons les choses clairement. Ouais. Est-ce que le port du voile est une violence faite aux femmes? Caroline Forest.
Ça dépend. Si elles le portent volontairement, c'est une violence qu'elles s'infligent elles-mêmes. En tout cas, elles adhèrent à un système de domination masculine, puisqu'aujourd'hui, le port du voile est un signe politique recommandé pour signifier la différence homme-femme à des fins de complémentarité, en réalité d'infériorité symbolique. Les femmes qui y adhèrent, pour moi, sont des antiféministes. Je ne dis pas que ce sont forcément des victimes. Il y a des collabos partout, ce sont des antiféministes. La citation d'Elsa Dorlin, elle est intéressante Il y a des choses que je partage dans ce qu'elle dit. Il est évident que la façon dont certains hommes politiques, y compris de droite, qui ne s'émeuvent pas beaucoup en général des violences faites aux femmes, focalisent avec beaucoup d'excitation sur toute violence dès lors qu'elle émane des quartiers populaires et dans leur esprit des hommes maghrébins, évidemment que là, le racisme est beaucoup plus prégnant et en tout cas, on rajoute à leur bonne volonté antisexiste. Le problème, c'est que ceux qui ont tenu ces discours, ceux qui ont écrit toute cette littérature, ont essayé de faire croire que les féministes qui dénonçaient toute l'année toutes les violences, toutes les formes de sexisme et tous les intégrismes, des gens universalistes comme Elisabeth Badinter ou d'autres, étaient racistes parce qu'elles dénonçaient aussi les violences faites aux femmes dans les quartiers populaires et les violences faites aux femmes au nom de l'islam. Et c'est là qu'en réalité est le piège. C'est pas dans le propos, c'est dans le deux poids deux mesures que ce propos ne dit pas.
Je me suis fait faire 3 millions de Jocondes sur papier cul. Et chaque matin j'emmerde son sou. Rire ambigu.
Merci Jeannine Mossus-Lavaux et Caroline Fourest, merci d'être venue nous voir. Jeannine Mossus-Lavaux, je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS, au CVPOF, que vous êtes notamment la maîtresse d'œuvre donc de Quand les femmes s'en mêlent, genre et pouvoir, paru chez La Martinière en 2004, ainsi que Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, paru chez Odile Jacob. Caroline Fourest, vous êtes rédactrice en chef de la revue Prochois, et vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage que j'ai plaisir à citer, La tentation obscurantiste, paru chez Grasset, qui avait reçu en 2006 le prix du livre politique. Deux autres textes également que j'ai plaisir à citer. Bas les voiles de Shador Djavan, qu'on peut trouver chez Gallimard. Une diatribe contre le voile à lire. Donc un texte tout à fait intéressant, indigné de la part de quelqu'un qui, pendant 10 ans, a porté le voile et qui dit d'elle-même « Je sais de quoi je parle ». Je recommande également l'école des femmes de Molière, qu'on ne lit plus assez, où il y a notamment, c'est à la scène 2 de l'acte 3, les fameuses maximes du mariage lues par Agnès, c'est réjouissant. Jetez-vous dessus.
Allez-vous faire aimer ailleurs, mes petites chéries. Je me suis mise à la colle avec la soupe.
À la lecture des textes aujourd'hui, c'est Jean-Louis Jacopin. Demain, je recevrai Éric Fassin et Louis-Georges Tin et nous parlerons d'homophobie dans les nouveaux chemins de la connaissance.
Sur papier cul, et chaque matin j'emmerde son sou.
La réalisation, François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Gabriel Alperne et Camille Renard.